Terre à Terre, le magazine de l'environnement. On parle ce matin de territoires et de populations qui sont gérées, administrées d'une manière tout à fait particulière. La population qui vit aujourd'hui dans des camps. Michel Agier, vous êtes chercheur. Depuis de nombreuses années, vous vous consacrez à l'étude des camps, camps de réfugiés, camps de rétention, camps de déplacés. Vous avez coordonné, voici 2 ans maintenant, un livre qui est une somme, qui s'intitule « Un monde de camps » aux éditions de la Découverte. Une somme d'articles, une somme d'expériences, de témoignages, d'études. Et en fait, en lisant ce livre, très peu de temps avant que l'actualité nous rattrape, je me faisais la réflexion de l'extraordinaire invisibilité de ces camps dont on parle pourtant à longueur de journée. On a le sentiment d'un rabâchage des mêmes images, encore et toujours, des images qui sont à la fois saisissantes et qui en même temps sont comme autant de caches, de voiles posées sur une réalité qu'on n'arrive pas vraiment à cerner. Et de nouveau, cette semaine, depuis quelques jours, ce même sentiment d'assister avec impuissance à quelque chose de terrible qui se déroule sur notre sol. Je parle bien évidemment de la destruction de la jungle de Calais. Il y avait eu une première destruction du camp en 2002, et puis à nouveau en 2009, et puis cette année, tous les 7 ans, donc, sans que ce ne soit jamais une solution, ni les camps, ni la destruction des camps. Alors j'aimerais peut-être que vous nous parliez de ça, Michel Agier, et puis plus largement de ces camps qui prolifèrent aujourd'hui à la surface de la Terre, sans que véritablement on en soit informé, sans qu'on le sache, cachés qu'ils sont dans cette invisibilité dont vous parlez, dans cette extraterritorialité, cette exception, cette exclusion, qui fait que ceux qui vivent dans les camps sont aujourd'hui les étrangers absolus.
Oui, alors c'est intéressant de reprendre, c'est déjà intéressant, il y a presque une dimension historique qu'on peut déjà reprendre pour comprendre ce qui est en train de se passer, ou en tout cas le resituer, même si on ne peut pas forcément tout comprendre, parce que ce gouvernement fait des allers-retours, des balanciers en fonction d'un baromètre préélectoral, et donc on a des changements d'orientation entre un jour et l'autre, ou entre un ministre et l'autre. Donc c'est pas toujours facile de comprendre ce qui est en train de se passer sur Calais. Mais on peut en tout cas resituer un petit peu un fil historique qui commencerait en 99 avec effectivement la création du centre de Sangatte, centre de transit de migrants cherchant à aller en Grande-Bretagne, mais aussi en même temps les premières réunions de gouvernements européens, britanniques, hollandais, si je me souviens bien, allemands, français, sur la tentative d'imaginer une politique migratoire européenne. Ce qui, évidemment, n'a jamais eu lieu. Il n'y a pas de politique migratoire européenne. En revanche, il y a eu des mesures toujours plus sécuritaires en fonction de ce que les gouvernants pouvaient penser de l'évolution d'un électorat nationaliste, plutôt d'extrême droite, dans les pays européens face à une présence étrangère plus visible. Et donc la question de l'invisibilité, comme vous disiez, elle est toujours au centre de la question des camps. Donc on a, en 2002, la décision du ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, de supprimer le centre de transit de la Croix-Rouge de Sangatte, parce que ça devenait trop médiatiquement présent et donc politiquement gênant. Alors qu'au départ, on peut penser que ce camp de transit, on va dire, était précisément fait pour éviter que les migrants soient trop visibles dans leur dispersion. Il s'agissait de les concentrer. Et là, ça devenait trop visible dans la concentration, si on peut dire, parce que ça avait attiré l'attention des médias, des politiques, etc. Donc, destruction en 2002 d'un centre qui avait une fonction qui n'était pas précisément de rétention, qui était une fonction de transit, mais qui devenait, au long du temps, et à cause des accords entre la France et la Grande-Bretagne pour retenir les migrants qui voulaient passer en Grande-Bretagne, qui était devenu plus qu'un centre de transit, c'était un camp où les gens finissaient par rester immobiles et par ne pouvoir vivre que là, puisqu'ils avaient toujours ce problème de l'illégalité en dehors de ce camp. Alors la dispersion qui a été provoquée par la destruction du camp de Sangatte a donné lieu donc à plusieurs campements, squats, installations dans différentes villes, villages, etc., entre Calais et Dunkerque, toujours pour des gens qui visaient la Grande-Bretagne, et petit à petit, à l'établissement, on va dire, d'un campement auto-établi. Hein, on est dans une autre situation. Ce n'est pas une organisation humanitaire de transit comme dans le cas de la Croix-Rouge. C'est un campement auto-établi, un peu à la marge de Calais, mais toujours, on va dire, assez près, qui a pu, à un moment donné, moi, c'est un moment où j'ai fait des enquêtes avec la photographe Sarah Prestiani, et on a fait un petit livre de photos et textes sur les, ça s'appelait Bord de route en exil. Et donc, en 2009, il y avait à Calais un campement, principalement composé d'Afghans, principalement Pachtounes, qui se trouvaient regroupés, pouvant regrouper 500 ou 600 personnes. Et c'est ce campement-là qui a été détruit par l'autre ministre de l'Intérieur, en l'occurrence
Éric Besson.
Voilà, Éric Besson, qui a à nouveau provoqué à nouveau la même chose, dispersion des gens dans le littoral, entre Calais et Dunkerque, et création de différents campements. Et puis, il y a tout ce qui se passe suite au conflit du Proche-Orient, au conflit syrien en particulier, au conflit dans les frontières Irak, Syrie, Turquie, etc., avec des arrivées plus importantes en Europe, bien évidemment, avec des phénomènes de migration très importants, mais un peu moins importants, évidemment, dans la région de Calais, mais ça représentait quand même une augmentation assez importante. Et donc là, on a eu, dans la période, disons, 2012-2015, formation de campements, à nouveau, des campements auto-établis par les migrants eux-mêmes, dans une situation où ils étaient dans l'impossibilité de passer la frontière, où ils étaient, ils ne souhaitaient pas demander l'asile, ou ils ne pouvaient pas demander l'asile, ou la demande d'asile leur avait été refusée, et où donc ils étaient dans un contexte parfois d'illégalité ou de situation irrégulière, comme on dit, et parfois en attente de passage, simplement. Et donc là, on avait des campements, des squats en très grand nombre, et puis un phénomène tout à fait important aussi bien à Dunkerque qu'à Grande-Synthe, qu'à Noranfonte, ou à Calais, qui est des associations d'habitants qui aidaient les migrants, qui venaient leur apporter de la nourriture, qui leur apportaient des vêtements, qui les retrouvaient sur les lieux de leur campement, qui nouaient des relations personnelles avec eux, qui les amenaient chez eux, qui avaient cette forme d'hospitalité qui est importante, et puis on pourra en reparler, mais enfin bon, c'est, pour moi, c'est ça, c'est l'alternative, c'est ou les camps ou l'hospitalité. Et donc là, on avait ces formes d'hospitalité. Mais aussi le fait que, la force publique n'offrant aucune solution de légalisation ou permettant le passage des gens qui voulaient passer, il y a eu un phénomène, effectivement, à un moment donné, de grossissement de cette population qui devait atteindre, à un moment donné, peut-être 2000, 2500 personnes entre Calais et autour. Et c'est là que l'État a fait acte de souveraineté en décidant que les gens devaient être expulsés des endroits où ils étaient et regroupés dans un seul lieu. Et donc on a eu en avril 2015 ce que j'ai appelé, moi, à ce moment-là, un camp de regroupement. Et c'est pour ça que le terme de jungle qui est fréquemment utilisé, moi je ne l'utilise pas, je vous expliquerai pourquoi, parce qu'il faut être précis dans les termes. Là, on a eu une opération politique, de police, politique, c'est une opération de police qui a consisté à dire aux gens, en obligeant les associations aussi à collaborer à cette opération, vous êtes regroupés dans le seul endroit où vous serez tolérés. En dehors de ça, vous n'êtes pas tolérés. Voilà, ça. Et donc ça, ça a été la délimitation d'un espace, d'un territoire décidé par l'État. Et ça, on est dans la forme du camp, c'est-à-dire qu'il y a une autorité souveraine qui décide que là, on va mettre les migrants, ou ailleurs on dira les réfugiés, ou ailleurs on dira les étrangers, ou je ne sais quoi. Mais là, il y a une décision de l'autorité qui a la souveraineté sur le territoire. Et alors ce qui s'est passé à ce moment-là, effectivement, donc avril 2015, les associations locales se sont trouvées un peu, et beaucoup même au début, mises à l'écart de cette opération, puisque le camp devenant une installation beaucoup plus importante, les petites aides qu'ils apportaient en amenant un peu de nourriture, un peu de vêtements, etc., étaient complètement dépassées par la situation. Ils n'avaient pas les moyens d'y faire face. Et à ce moment-là, effectivement, l'État a contracté une entreprise, enfin bon, qui a un statut d'association, peut-être, je ne sais pas très bien, mais enfin bon, qui s'appelle La Vie Active, et qui a géré un centre, qui s'appelle un centre de jour, où on offre une ration alimentaire par jour, on offre un accès à des douches, à des toilettes, et une sorte de dortoir pour des femmes et des enfants, mais une cinquantaine, voilà. Bon, concrètement, ça a fait une installation, qui ressemblait de plus en plus à une installation du genre de camp comme on trouve ailleurs dans le monde. Donc certains l'ont appelé déjà camp de réfugiés, avec toujours ce terme de jungle ou de jungle qui est revenu petit à petit au fur et à mesure que les gens prenaient possession un petit peu de cet espace quand même. C'est assez intéressant, quoi. C'est-à-dire que dans cette mise à l'écart, il s'est passé quelque chose qui se passe ailleurs dans le monde, dans les camps de réfugiés, c'est-à-dire que petit à petit, les gens n'ont pas choisi ce lieu, ils ont été mis là de force, mais bon, ils s'en accommodent, puis ils n'ont pas le choix. Et donc les tentes ont été transformées, ont été remplacées par des abris avec des armatures en planches, avec des plastiques plus solides. Des organisations, non pas des ONG, mais des associations, des groupes de volontaires, d'aidants, comme on dit, ou des groupes plus politiques, sont venus et ont petit à petit fait aussi de ce lieu un lieu symbolique de ce qui pouvait se passer avec cette présence d'étrangers qui avait été mise à l'écart et qui pouvait être aidée et dont on pouvait rendre la vie meilleure sur place de ce camp même. Et c'est ça qui a fait que les choses se sont transformées. Il y a eu une église ou deux églises qui ont été construites, une ou deux mosquées, deux écoles, un centre de soins, un centre d'accompagnement juridique, des restaurants, des très bons restaurants, j'y étais. Je vous assure que les Calaisiens devraient se réjouir d'avoir certainement parmi les meilleurs restaurants afghans ou iraniens qu'on peut trouver en France. Mais voilà, et donc tout ça s'est créé. Et c'est à ce moment-là que finalement, parce qu'une espèce de vie sociale se recréait sur ce lieu et qui commençait à devenir vivable, et qu'il devenait en plus un vrai théâtre politique, un théâtre culturel, puisqu'il y avait un lieu qui est un théâtre avec des animations, il y avait une présence médiatique très forte. Et là, le gouvernement a pris cette décision d'éradiquer violemment, malgré l'opposition de tout un tas de courants associatifs. Je dois dire que là, les partis politiques ont été quand même assez pauvres sur cette affaire, puisque il y a eu très peu d'interventions quand même des partis politiques pour s'opposer à cette décision du gouvernement, alors que dans les médias et dans le monde associatif, on en a quand même beaucoup parlé.
De fait, le terme de politique est presque un peu étrange à poser à ce type de comportement, de réaction. On a plus l'impression d'une gestion au coup par coup que d'un projet politique d'une certaine envergure. Mais Michel Agier, ce qui est très frappant, c'est que dans ce cas que vous venez de nous décrire, la destruction du camp de Calais, on retrouve énormément des éléments qui sont constitutifs des camps qui se sont mis à proliférer un peu partout. Alors j'aimerais peut-être maintenant qu'on élargisse et que vous nous brossiez un tableau, déjà dans un premier temps, de ce monde de camps dans lequel nous vivons, ou à côté duquel nous vivons, en toute insouciance. Ça remonte, quoi, à la Deuxième Guerre mondiale ? Enfin, quand on dit ça, c'est difficile, puisqu'on pense tout de suite au camp de la mort.
Oui, c'est ça. Moi, je fais une différence entre les camps contemporains, dont je situe la contemporanéité, justement, après la fin de la guerre froide, on va dire dans le post-guerre froide, et puis la période antérieure, effectivement, où on a eu les camps de la mort, mais avant ça, il y avait les camps de réfugiés espagnols, et avant ça, il y avait les camps aussi pour des tziganes allemands ou des tziganes venant d'Alsace qui avaient été mis en camp dans différentes régions en France. Donc l'histoire des camps est plus ancienne, et là, il y a des travaux qui ont été faits par des historiens, je pense en particulier au travail de Denis Péchanski sur la France des camps, qui est un travail important. Mais là, on prend une période qui nous ramène aux camps qui existent aujourd'hui. Donc on part en gros de la fin de la guerre froide, parce que je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a un changement général de la configuration politique du monde. On va dire que le voile des rapports Est-Ouest s'est enlevé. On a vu quelque chose qui est beaucoup plus l'inégalité, la violence même des rapports Nord-Sud. Et cette violence des rapports Nord-Sud, on la voit en très grande partie dans ce qui se passe avec ces politiques d'encampement. Et j'appelle ça l'encampement, le fait de mettre les politiques qui consistent à mettre des gens dans des camps faute d'avoir une réflexion politique sur le sens de leur mobilité, sur pourquoi ils se déplacent et comment avoir une politique migratoire, une politique des mobilités. Donc ces phénomènes de mise en camp se sont développés d'abord là où il y a des conflits, et donc ça a donné les camps de déplacés internes, les camps de réfugiés, mais pas seulement, c'était aussi des camps pour des gens qui se retrouvaient pris par des famines, et donc partout où il y avait des déplacements de population en réalité, et on retrouve quelque chose qui est intéressant, qui est de constater que la forme de camp n'est pas tant intrinsèquement liée à la guerre uniquement, mais elle est liée au déplacement, à la mobilité. Et un déplacement, une mobilité qui n'a pas été prévue, qui n'a pas été envisagée ou qui n'est pas désirable. Et donc ça peut être des guerres, ça peut être des violences, ça peut être des famines, ça peut être des problèmes économiques de misère, ça peut être des problèmes d'événements naturels qui deviennent des catastrophes parce que les pays ne les avaient pas anticipés, et donc qui fait que les gens doivent se déplacer. Et c'est là qu'à chaque fois, on se rend compte que la forme du camp devient en fait très souvent la solution que les gouvernements adoptent pour gérer des populations qui sont a priori indésirables. En 2008, j'avais fait un ouvrage qui était le fruit de mes propres enquêtes pendant 7 ans dans différents camps dans le monde, et je l'avais appelé « Gérer les indésirables », puisque effectivement, le gouvernement qui se met en œuvre là et qui peut prendre l'aspect d'un gouvernement humanitaire, au sens où on va sauver des vies, on les met dans des camps pour les sauver. Ce gouvernement-là, en fait, de fait, c'est un gouvernement des indésirables, c'est-à-dire il gère toute cette part de la population mondiale qui, dans son déplacement, n'appartient plus à personne et n'est plus prise en charge par aucun État. Et donc c'est ce creux un peu dans ce creux des États que se met ce gouvernement humanitaire des populations en déplacement, et c'est là que le camp prend sa forme la plus évidente, son utilité la plus évidente.
On reviendra sur ce terme d'indésirable, parce que c'est vrai qu'on peut se demander indésirable pour qui et pourquoi. Mais peut-être d'abord faire ce constat, avec vous d'ailleurs Michel Agier, que le camp est porteur d'un paradoxe assez aigu, puisque c'est en général un camp d'urgence, donc construit dans l'urgence, dans la précarité, dans une forme de temporalité très brève. Mais qu'en même temps, ce temps-là peut devenir infiniment long et s'installer.
Alors, effectivement, d'une manière générale, c'est vrai que c'est toujours au nom de l'urgence qu'on déclare l'évidence du camp. Même du point de vue des organisations humanitaires, là, on le voit bien avec ce qui se passe aux frontières de l'Europe et le fait qu'énormément de camps sont installés, bien plus qu'on ne le voit, avec des projets qui sont très explicitement sécuritaire, c'est-à-dire on ne veut pas que les gens passent une frontière, on les garde dans des camps. Ou bien ils sont gardés dans des camps parce que les politiques européennes sont telles aujourd'hui que personne ne veut qu'ils continuent de circuler, donc c'est le problème de l'immobilisation. On immobilise des gens en les mettant dans des camps. Mais bien souvent, moi, il m'est arrivé de discuter, et je pense qu'il faut le faire, de discuter un peu dans le détail. Quand on nous dit que le camp répond à une urgence, mon expérience de tout ça me fait dire que ça n'est pas du tout vrai ou que c'est très discutable. C'est-à-dire, premièrement, lorsqu'il y a une guerre, lorsqu'il y a une catastrophe, il n'y a personne qui est là au moment de l'urgence. Au moment de l'urgence, qu'est-ce qui se passe? Les gens se débrouillent seuls ou ils se sauvent avec les proches qui sont autour d'eux. Ils mobilisent leurs relations sociales habituelles, les plus efficaces, les plus immédiates.
Et en tout cas, ils ne se regroupent pas.
Certains se regroupent, mais par groupe de 10, de 15, de 20, c'est des petites communautés de survie. Moi, j'avais développé ça parce que j'avais un petit peu étudié ça dans cet ouvrage précédent, là, « Gérer les indésirables », où j'avais décrit à un moment donné ces communautés de survie. On les trouve aussi, ces communautés de survie, par exemple, avec les migrants qui arrivent vers le nord de l'Afrique du Nord et qui n'arrivent pas à passer les frontières et donc se trouvent dans les forêts de Belyounech qui sont au-dessus des lieux de passage.
À côté des enclaves de Ceuta et Melilla.
Voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, on a des petits groupes de 15-20 personnes qui organisent leur survie. Donc ça, ce moment-là, c'est le moment de l'urgence. Et à ce moment-là, il n'y a pas de grandes organisations humanitaires, il n'y a pas de grandes organisations de l'État ou des États ou je ne sais quoi. Et lorsque des organisations humanitaires viennent pour traiter une urgence, même dans le cas d'un moment de guerre violente, d'un moment tremblement de terre ou je ne sais quoi. Bon, ben, il faut d'abord, il y a énormément de conditions. Il faut d'abord qu'il y ait une mission exploratoire, comme on dit. La mission exploratoire va rendre un rapport. Le rapport va évaluer les possibilités d'une intervention, etc., etc. En Syrie, aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucune organisation humanitaire qui intervient. Médecins sans frontières ne peut pas intervenir, Médecins du Monde non plus. Donc ils interviennent dans les pays environnants, mais sur le lieu même où on pourrait parler de l'urgence, là, il n'y a rien, il n'y a personne. Donc l'argument de l'urgence, déjà, à ce moment-là, il est un peu discutable, parce qu'au final, une intervention d'urgence va se faire avec un décalage souvent de 2 mois, 3 mois après ce qui a causé ce discours de l'urgence. Donc on a un fort décalage. Ensuite, ce qui se met en place d'une manière générale à ce moment-là, qui est le camp de regroupement, l'argument qui est tenu généralement, c'est de dire « Ah ben c'est ce qu'il y a de plus pratique, c'est ce qu'il y a de plus efficace, c'est le plus simple ». C'est plus pratique, c'est plus efficace, c'est plus simple pour les organisations elles-mêmes, mais pas du tout pour les gens. Parce que justement, les gens, eux, ils sont dispersés, ils n'ont pas d'aide. Et donc on leur dit « Si vous voulez d'aide, vous devez venir là ». Et c'est une forme de regroupement, bon ben, comme on a pu avoir à Calais, par exemple, là, sous une tournure plus policière, sécuritaire, en leur disant « Vous êtes dispersés, on ne veut pas que vous soyez dispersés, vous vous regroupez ». Bon ben, bien souvent, dans les camps dits humanitaires, on a un peu la même opération, alors que des études qui ont été faites par des économistes de certaines organisations pour examiner comment fonctionne exactement le Haut Commissariat aux réfugiés, les camps du Haut Commissariat aux réfugiés, etc., montraient qu'il pourrait être beaucoup moins coûteux d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire d'aider les individus, d'aider les familles, en leur donnant de l'argent, des fois, tout simplement. Ça existe, cette forme, hein, c'est les cliniques mobiles, comme on dit dans le jargon humanitaire. On peut multiplier les cliniques mobiles, on peut multiplier les recherches d'hébergement, de logement, etc., pour les gens, et aider les gens à les payer. Parce que c'est quelque chose qui se passe, par exemple, au Liban, ou qui pourrait se passer beaucoup plus au Liban, où le gouvernement a demandé à ce qu'il n'y ait pas de camp pour les Syriens, parce qu'ils ont déjà les camps palestiniens. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que souvent, des citoyens libanais ont loué une partie de leur terrain à des réfugiés syriens, où ils ont installé une tente, ils ont construit une cabane. Et donc certains ont dit « Ah, mais c'est des marchands de sommeil, c'est des profiteurs, etc. » Et à ce moment-là, on se dit « Mais pourquoi est-ce que le HCR ne fait pas la transaction ?» Au lieu de dire bah, « Puisqu'il n'y a pas de camp, donc on ne peut rien faire », de dire bah, « On va aider précisément les réfugiés en payant nous-mêmes le loyer que leur demandent les Libanais ».
Mais de fait, Michel Agier, quand on lit les différentes études qui ont été faites dans nombre de pays, on s'aperçoit que, là vous venez de citer la Syrie, le Liban, mais également les Afghans au Pakistan ont été reçus d'une manière quand même assez différente, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu des camps, mais il y a eu aussi énormément de regroupements beaucoup plus informels et une bien meilleure intégration dans la population. La même chose à Khartoum aussi, et j'ai eu le sentiment parfois, vous me direz si j'ai eu raison, que ce modèle, ce système des camps, tels que vous venez de les décrire, qui sont quand même des camps effectivement extrêmement administrés, organisés, militaires, il y en a certains qui sont d'ailleurs fermés, où il y a une guérite à l'entrée, on n'entre pas qui veut, ne sort pas qui veut, ce modèle-là est quand même beaucoup plus souvent occidental.
Il a été effectivement systématisé par des organisations internationales comme le HCR, l'Organisation mondiale des migrations, certaines grandes ONG comme le CICR, la Croix-Rouge internationale.
Parce qu'il n'existait pas tout de suite, il a été organisé, affiné, peaufiné.
Oui, alors on peut refaire l'histoire du campement, qui est une autre histoire. Et je pense que des campements, notamment les campements nomades, ont existé, mais c'est une toute autre histoire. C'est-à-dire on peut... Et d'ailleurs, j'ai participé à la préparation d'une exposition qui aura lieu à la Cité de l'architecture et du patrimoine à partir du 13 avril, et qui s'appelle « Habiter le campement », et où on a un petit peu essayé de retracer tout le panorama possible, aussi bien historique que géographique que fonctionnel, de toutes les formes de campements qui existent. Que ce soit donc le campement nomade ou le refuge de migrants, ou aussi le campement des scientifiques qui vont examiner des choses très bas sous la Terre ou très haut sur la planète et qui s'installent dans des campements. Et donc l'idée même de campement est une idée qui en fait n'a rien de dramatique, et c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est de la dédramatiser en l'associant à la mobilité. C'est ça l'idée, parce que le camp, et alors du coup après on peut jouer sur les mots, enfin c'est pas seulement jouer sur les mots, c'est jouer sur les idées et les politiques. C'est-à-dire le camp a un effet d'enfermement, le camp tel qu'on en parle là a un effet d'enfermement. Le campement, historiquement, et tel qu'on le voit un peu partout dans le monde, ce sont des lieux que les gens établissent à un moment donné dans une mobilité. C'est pas fait pour durer, etc. Bon, pour les raisons qu'on sait, il se trouve que les choses durent parce que, en général, les mobilités sont restreintes ou interdites. Et donc, c'est pour ça que le camp devient un lieu qui dure et qui se transforme et qui devient autre chose, qui devient le début d'une ville, etc. Mais au départ, on peut aussi bien garder l'idée de cette association primordiale du campement et de la mobilité. Et peut-être, si on veut avoir les idées claires, et du camp, le camp et l'immobilité, si vous voulez. Mais dans tous les cas, effectivement, là, il y a des phénomènes sociologiques qui sont associés à cette forme d'espace. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, il y a beaucoup de pays dans lesquels il y a eu d'autres solutions, il y a toujours existé d'autres solutions d'hospitalité, tout simplement, que celle du camp, et du camp établi par une puissance extérieure, hein, ça, c'est important, cette différence-là. Il peut se passer qu'un campement, ou ce qui apparaît comme un campement, à un moment donné, soit associé à l'hospitalité. Moi, je me suis trouvé au Sierra Leone, donc en 2007, et à ce moment-là, des Libériens qui avaient passé la frontière du Libéria en Sierra Leone avaient été accueillis par des villageois à 40-50 kilomètres de la frontière, qu'ils connaissaient plus ou moins, c'est-à-dire dont ils parlaient à peu près la même langue, avec lesquels ils avaient des relations sociales anciennes, qui leur avaient dit « vous êtes les bienvenus, mais vous êtes bien nombreux, donc on va vous donner un espace là à côté où vous allez vous installer ». Et donc c'est devenu un autre quartier du village. Et puis au bout de 3 ans, donc là il y avait 4000 personnes, il y en avait guère plus dans le village, il y en avait même plutôt moins, mais bon, voilà, ça allait, les gens avaient eux-mêmes organisé leur espace, il y avait un maire, il y avait un comptage de la population détaillé, etc., etc. Et puis le HCR est venu et a dit « vous avez rien à faire là, vous allez dans les camps qu'on a préparés, qui se trouvent à 500 kilomètres de là », donc il a fallu éloigner les gens de la frontière où ils attendaient, eux, pour pouvoir éventuellement retourner dès qu'ils auraient pu. Et ils ont été mis dans un dispositif de camp où on avait 7 camps les uns à côté des autres, un truc avec des dizaines de milliers de personnes, dans un camp très anonyme, bien plus compliqué pour les gens pour se familiariser. Et donc là, c'était un peu le contraire de l'hospitalité. Donc le campement peut être cette forme où on vous dit vous êtes les bienvenus, installez-vous ici. C'est comme si vous étiez dans notre village, quoi.
Ça peut, en tout cas ça pourrait. Ça n'est pas le cas le plus fréquent. Et tout de même, ce qui apparaît en filigrane dans ce que vous venez de nous décrire, là, Michel Agier, c'est une forme de camp qui est extrêmement gérée par d'autres. Et là, je pense qu'il est important peut-être de réfléchir un peu au rôle de l'humanitaire et des institutions internationales qui ont développé, vous dites-vous, un véritable savoir-faire et une technologie des camps, et qui gère les populations en lieu et place des populations elles-mêmes.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est à répétition dans une situation où, à un moment donné, un basculement se fait entre une relation entre des gens qui arrivent et des gens qui sont là et qui les accueillent, on va dire entre des outsiders et des établis, les uns pouvant être considérés étrangers, mais l'étranger est bienvenu ou peut être bienvenu, et donc on pourra aussi reparler de ça, mais c'est une question aussi comment les sociétés pensent leur relation à l'étranger. Et donc là, cette forme-là, elle existe dans de très nombreuses sociétés, que ce soit au Proche-Orient, en Afrique, en Asie, où on a eu cette grande prolifération des camps. Et puis à un moment donné, effectivement, une intervention étrangère, lorsque les choses durent trop longtemps, lorsque des phénomènes deviennent massifs, lorsque des négociations politiques se font de part et d'autre pour gérer cette population comme un tout, comme une masse. Et à ce moment-là, effectivement, on a la forme du camp qui se développe et qui tend à rendre, d'une part, à choisir des espaces qui sont en dehors des espaces ordinaires. Donc il faut inventer de l'extraterritorialité, comme on dit. Il faut créer des espaces qui sont concédés par les autorités locales, villageoises, et par l'autorité nationale, qui cède une partie du territoire à ces organisations internationales. C'est ce que je disais à propos du camp de Dadaab, qui est en fait un ensemble de 4 camps.
Au Kenya.
Au Kenya, considéré comme le plus grand camp du monde, avec, selon les périodes, entre 350 et 400 000 habitants. Et cet espace-là, en fait, la population du camp est bien plus nombreuse que la population de tout le district de Garissa où elle se trouve. Simplement, il n'y a pas de carte. Elle n'est pas sur la carte du pays. Elle n'apparaît nulle part. Il y a juste le petit village de Dadaab, minuscule, avec ses 500 habitants comme il avait autrefois. Mais l'établissement du camp lui-même n'apparaît nulle part sur les cartes du Kenya ou de la région même de Garissa.
Ni celui-ci, ni aucun camp, Michel Agier. C'est, de fait, les camps n'apparaissent pas sur les cartes.
Les camps n'apparaissent pas sur les cartes, oui. C'est pour ça que quand l'ouvrage est sorti, j'avais dit il faut rendre les camps célèbres, il faut dire leur nom. Parce qu'il y a des gens qui vivent là depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et plutôt que de vouloir les éradiquer, on ne supprime pas le problème en supprimant les camps. Il faut justement aider à les transformer.
Ce sont des millions de personnes qui vivent aujourd'hui dans des camps.
On peut dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près 20 millions de personnes qui sont encampées. Alors, encampées, ça veut dire dans les camps de réfugiés stricto sensu des organisations internationales, environ 6 millions, mais maintenant on est peut-être bien passé à 8 millions avec tout ce qui se passe depuis 2 ans autour de la Syrie, 8 millions ou 9 millions même, sans doute, de réfugiés stricto sensu dans des camps de réfugiés gérés par des organisations internationales, 6 millions au moins de déplacés internes dans des camps de déplacés internes. Donc les déplacés internes, c'est des gens qui ont fui leur maison, mais qui n'ont pas traversé la frontière de leur pays, qui sont restés dans leur pays. Et là, c'est une gestion qui ressemble un peu à celle des camps de réfugiés, mais avec des éléments un peu différents, notamment une place des États nationaux plus importante. Et puis, donc là, on est environ là déjà à 14 ou 15 millions. Des campements aux frontières, les campements dans les villes. Vous avez deux grandes formes dans les campements. C'est un peu le campement Rome qu'on a en France. En France, il y en a des dizaines et des dizaines de campements Rome, mais il n'y a pas énormément de monde. On a 17 000 personnes, mais qui sont sur près de 300 campements. Donc, en gros, on est sur des campements qui sont un peu des grosses familles, 50 personnes, peut-être 60, peut-être 100 au maximum. Et ça, c'est une forme qui est très répandue dans le monde entier. Cette espèce de campement qui est associé à la mobilité, qui peut être
stigmatisé
par un gouvernement, un État, mais qui peut être aussi considéré comme une forme qui accompagne la mobilité. Et puis donc, ça, les campements, on va dire, urbains, des interstices urbains, et puis les campements des frontières, comme ceux qu'on a à Ceuta et Melilla, comme ceux qu'on a à Calais, ceux qu'on a à Patras, en Grèce, et puis maintenant à Lesbos, enfin, etc., tous ces lieux où les gens forment des campements parce que le passage est bloqué à la frontière. Et donc, si on prend l'ensemble de ces campements, ben, on a encore là plusieurs millions de personnes, mais c'est beaucoup plus difficile à compter. Et je pense que là, on a des milliers de campements, avec des changements tous les jours. Et puis enfin, on doit compter là-dedans les centres de rétention, je pense que c'est important, avec 1 million de personnes dans à peu près 1 millier de centres de rétention dans le monde. Donc au total, on arrive à peu près, aujourd'hui, au moment T, à peu près 20 millions de personnes qui sont d'une manière ou d'une autre dans un camp.
Les centres de rétention étant destinés aux indésirables parmi les indésirables, ceux qui ont été expulsés ou qui sont en attente de papiers.
En attente d'expulsion, oui. C'est-à-dire ceux qui sont en principe, voilà, ceux qui ont une obligation de quitter le territoire et qui sont là pour attendre, pour qu'on identifie le pays dans lequel ils doivent être renvoyés, ou bien qu'on examine si effectivement ils sont expulsables. Des gens peuvent ne pas être expulsables même s'ils ne sont pas en situation régulière.
Mais alors l'attente, justement, Michel Agier, je vous ai entraîné, on a un peu dérivé, on était en train de parler de la gestion des camps par les organismes internationaux, les grandes associations, et on parlait de cet urbanisme bien particulier qu'on connaît, puisqu'effectivement on a tous vu des images de ces alignements bien rectilignes et extrêmement homogènes et uniformes. C'est la gestion de l'espace, c'est aussi la gestion des populations, puisque, hormis l'attente, dans un camp, on n'est pas censé faire grand-chose.
Voilà, c'est ça. L'attente, le temps long, est une des principales caractéristiques de la vie dans les camps. Il faut occuper le temps. Ou bien, comme disaient des réfugiés, il faut étirer le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est assez étrange, parce qu'en même temps, les gens qui sont là, ils voient souvent passer des policiers ou des gens des organisations humanitaires qui vont toujours à toute vitesse dans des véhicules 4x4. Ils ont toujours quelque chose à faire. Ils comprennent pas très bien pourquoi, mais il y a des gens très pressés d'un côté qui s'imaginent dans une espèce d'urgence vitale. Et puis, il y a des gens dont la vie est très lente, a priori très vide. Et donc, après, les choses se font assez rapidement. C'est-à-dire que, d'une part, il y a tout ce qui concerne la transformation de l'habitat, qui est assez important. Donc là, il peut y avoir des mobilisations des gens pour s'aider, pour transformer une tente en cabane, par exemple, en faire une baraque un peu plus vivable, aller chercher des bois, de la terre pour faire des briques en terre ou pour faire des armatures. Et donc, on a assez régulièrement, dans les camps, un paysage qui change assez vite. En gros, en tout cas en Afrique, dans les terrains que j'ai eu l'habitude de circuler, c'est, on va dire, au bout de deux ans et demi, le paysage des camps a changé. On n'est plus du tout dans des alignements de tentes, justement. On est dans quelque chose qui ressemble un petit peu à un village, qui ressemble un peu à un quartier urbain dense, parce que c'est des espaces assez denses, là, qui se regroupent, qui se forment petit à petit, et puis avec des formes d'habitat qui se sont transformées. Et puis des formes d'organisation sociale avec des leaders. Alors ça peut être par nationalité, ça peut être par quartier. Et donc on a même des différenciations de quartiers qui existent à l'intérieur des camps. On a aussi des différenciations entre les plus anciens et les plus récents, par exemple, ou dans un camp comme le camp de Maeba en Zambie. On a eu plusieurs générations comme ça depuis 1971 jusqu'en 2002. On a eu plusieurs générations de réfugiés qui sont arrivés. Et donc il y avait les premiers installés qui avaient pu s'étendre un peu plus que les autres, ceux qui étaient arrivés en deuxième, qui travaillaient pour les premiers, parce que les premiers avaient pu avoir des lopins de terre, et donc ceux qui arrivaient, la deuxième génération, travaillaient pour la première génération et pouvaient comme ça avoir un peu de nourriture. Et la troisième génération étaient ceux qui, en 2002, étaient dans une situation humanitaire effectivement très grave, puisqu'ils venaient d'échapper à la dernière guerre qui venait de se passer. Et donc on avait comme ça, dans le même lieu, des statuts en réalité très différents et des relations sociales, notamment entre les premiers et les deuxièmes, qui était une relation un peu de clientèle, et entre les premiers et les deuxièmes et les derniers, une relation qui était presque compassionnelle, si vous voulez, de vouloir les aider parce que c'était les derniers. Et donc on retrouve une histoire de peuplement et une histoire de relations lorsque tout ça peut se dérouler effectivement. Une histoire de peuplement, une histoire de relation, qui fait penser un peu à l'histoire des lieux en général auxquels on a affaire quand on s'intéresse à un village, à un quartier, à un lieu comme ça.
Tout ça ne va pas sans difficulté, puisque de fait les autorités locales, quelles qu'elles soient nationales, internationales, caritatives, ont leur propre idée de l'organisation sociale et politique qui doit régner. Je me souviens d'un des chapitres de votre ouvrage qui raconte cette histoire d'un camp où les organismes humanitaires avaient décidé d'organiser des élections en mettant en avant les groupes les plus faibles, les femmes, les vieillards.
Oui, ça c'est assez fréquent, effectivement, il y a des confrontations de normes comme ça. C'est ce qui fait aussi de ces lieux des lieux assez cosmopolites, dans un sens du cosmopolitisme ordinaire, populaire, comme on voudra. C'est-à-dire de lieux où il y a des confrontations de normes et de valeurs qui fait que les gens qui sont là se transforment très vite. Ils se transforment dans un sens qu'on ne sait pas. Ils se transforment ni en mieux ni en moins bien, mais ils se transforment très vite. Il y a l'apprentissage des langues, évidemment, l'apprentissage d'autres langues, l'apprentissage de l'anglais, la compréhension que parler anglais, c'est entrer dans un monde aussi des financements, de certaines règles, etc. Et ce rapport d'apprentissage et de distance avec tout ce qui est le monde anglophone des organisations internationales, par exemple, est assez intéressant à observer du côté des réfugiés, des migrants ou des déplacés qui sont mis dans ces lieux-là. Donc on a un cadre qui devient un cadre cosmopolite ordinaire avec des interactions entre réfugiés venant de différentes régions, donc là des croisements linguistiques ou de modes de vie sociaux, et puis des croisements entre tous ces réfugiés déplacés et migrants, et puis des gens qui viennent d'Europe, des États-Unis, des jeunes gens, des jeunes filles qui viennent pour les sauver, et donc qui leur disent « toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça », et puis les gens qui sont là qui disent « attends, tu vas pas me donner des ordres, pourquoi tu me dis ce que tu as fait ?» Tu vois, il y a des rapports sociaux qui deviennent complètement bizarres pour les gens qui sont là. Et ce terme de bizarre, pour moi, il est très important parce que c'est toujours la première impression qu'on a quand on arrive dans des camps, dans des lieux comme ça, comme celui de Calais, par exemple, en ce moment, pour tous les gens qui sont allés ces derniers temps à Calais. La première impression, c'est de dire, mais comme c'est bizarre, on a à la fois des choses tellement ordinaires, de la vie ordinaire, une circulation de la police en plein milieu qui regarde les gens, qui se fait aussi regarder avec beaucoup d'antipathie, des Européens qui sont là, des Britanniques qui sont arrivés en très grand nombre, qui viennent pour construire des baraques, qui aident les gens, et puis les gens qui sont là, qui peuvent être Soudanais, Afghans, Irakiens, Syriens, qui ne se seraient jamais rencontrés si ce n'était ce camp-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on a partout, dans tous les camps, des gens qui ne se seraient jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu ce lieu-là. Et donc, pour eux, ce sont des choses très marquantes dans l'existence, même si après, ils arriveront au bout d'un chemin, ou s'ils retourneront dans leur pays d'où ils proviennent, etc., ils auront été complètement transformés par cette expérience de la migration, qui est une expérience très cosmopolite.
Très cosmopolite, très diverse aussi, Michel Agier, puisque à plusieurs reprises, vous avez employé, en les énumérant, les termes de réfugiés, déplacés, clandestins éventuellement. Et de fait, vous dites que pratiquement chaque migrant est appelé à connaître ces différents statuts au cours de son voyage.
Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, ce sont des termes, c'est intéressant aussi, mais c'est toujours très complexe, d'avoir affaire à ces catégories, parce que la plupart du temps, ce sont des catégories institutionnelles. On ne naît pas réfugié, on ne naît pas clandestin, on ne naît pas illégal. Donc les gens sont ce qu'ils sont, ils ont leur subjectivité, et c'est très important, et on les catégorise avec des identités. Et donc, par exemple, tous les débats qu'on a entendus sur les vrais réfugiés, et puis les faux, et ceux qui sont migrants, migrants économiques, etc. Donc ce sont des choses qui sont un peu aberrantes quand on le regarde du point de vue des gens eux-mêmes, qui peuvent éventuellement en jouer, parce qu'à un moment donné, les gens ne seront pas bêtes. Donc ils vont éventuellement dire qu'ils sont plutôt syriens, même si des fois ils ne sont pas syriens, ils vont faire comme s'ils étaient syriens, parce qu'ils ont compris que là, il vaut mieux être syrien qu'afghan ou même iranien, par exemple. Et donc, ils peuvent jouer de ces catégories, mais évidemment en n'y croyant pas. Et je crois que pour les chercheurs aussi, ou pour les gens qui veulent s'intéresser à ces sujets-là, il faut avoir cette même distance avec ces catégories institutionnelles. Ce sont des catégories institutionnelles qui produisent de l'identité à partir de critères qui sont toujours très arbitraires. Par exemple, il est évident qu'un réfugié syrien est aussi un migrant économique. C'est pour ça qu'ils vont plutôt en Allemagne, parce qu'ils disent... j'ai plus de chances de pouvoir être bien accueilli, installer ma famille et avoir un emploi. Et donc, s'ils ont tout ça, c'est qu'ils ont aussi un projet économique. À l'inverse, beaucoup de migrants qu'on dit économiques sont en fait des gens qui n'ont plus pu rester là où ils étaient pour des raisons économiques, pour des raisons sociales ou pour des raisons politiques. Et donc, ils sont partis et on dira, eux, ils cherchent un emploi quelque part, mais autant que les Syriens. Enfin, donc dans toute personne qui se déplace comme ça, on peut dire que dans tout réfugié, il y a un migrant économique, et dans tout migrant économique, il y a un réfugié. Et les gens jouent avec ces catégories, et parfois ils en jouent même avec de l'humour, parce qu'on peut passer d'une catégorie à une autre selon l'arbitraire d'une administration, d'un État, qui va du jour au lendemain régulariser des gens, par exemple. Ça s'est fait en Italie ou en Espagne il y a quelques années, où des gens qui étaient considérés comme illégaux ont été considérés dès le lendemain comme légaux. Bon, donc c'est un arbitraire, c'est une décision de l'État. Et là, on le voit bien pour le traitement des Syriens et des autres demandeurs d'asile ou des autres migrants, mettons qu'on prenne migrants comme étant le terme le plus général et descriptif, tous les gens qui sont en migration. À un moment donné, que fait l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés et la patrie, ou que fait l'équivalent en Allemagne? Ils disent vous êtes Syrien, vous passez. Si on voulait appliquer la Convention de Genève sur le statut de réfugié au pied de la lettre, ils ne sont pas conformes à la Convention de Genève, puisque la Convention de Genève consisterait à, dans l'application qui en est faite en général en Europe jusqu'à présent, ça consisterait à dire vous devez nous prouver que vous avez été persécuté pour des raisons d'appartenance à un groupe social, à un groupe de genre, à une région ou à un groupe politique. Etc. Et donc les gens n'auraient pas les moyens de le prouver. C'est bien ce qui fait que bien souvent, les gens n'ayant pas la possibilité de prouver leur persécution, le statut de réfugié leur est refusé. Là, Ça n'est pas du tout le cas pour les Syriens. Les Syriens, on leur dit, montrez-nous votre passeport syrien, vous passez. Un Soudanais arrive, il montre le passeport soudanais, on dit, vous, qu'est-ce que vous voulez, pourquoi, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui vous est arrivé, etc. Et il a de fortes chances qu'on lui refuse l'asile. Donc, en réalité, la catégorie de réfugiés, elle est, même si c'est triste à dire, parce que beaucoup de gens se sentent concernés par cette catégorie, se sentent concernés par les réfugiés. Mais aujourd'hui, obtenir la catégorie de réfugiés, c'est le résultat, en fait, d'une situation politique. D'éventuellement, ça peut être à d'autres moments le résultat de situations politiques et diplomatiques, avec par exemple les boat people où 140 000 personnes sont arrivées du Vietnam en France et ont été accueillies apparemment sans problème d'ailleurs, contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui, pendant 4 ans. Et on leur a pas demandé de prouver qu'ils étaient persécutés personnellement. On leur a simplement demandé leur passeport. Et on, voilà. Et donc ça, c'est le paradoxe qu'il y a dans ce statut qu'on prend pour un statut de grande valeur morale. En réalité, il est le résultat d'une négociation politique qui échappe souvent aux personnes et qui, elles, dans leur mobilité, se trouvent toujours confrontées à l'arbitraire.
Il y a un autre arbitraire dont on n'a pas encore parlé, Michel Agier, et j'aimerais quelques mots là-dessus. C'est l'arbitraire de l'emploi. L'interdiction qui est faite de travailler et dans le même temps, dans certains cas, le fait que des réfugiés peuvent fournir une main-d'œuvre à très bas coût et donc devenir extrêmement utile.
Alors effectivement, on a une production d'illégalité là avec le simple fait d'interdire aux réfugiés de travailler. Alors avec des périodes plus ou moins longues, hein, en France je crois que c'est pendant un an ou un an et demi que les personnes qui ont un statut de réfugié ne peuvent pas travailler. En Allemagne je crois que c'est 3 mois ou 6 mois. Mais il y a des pays, et notamment lorsque les gens sont en camp, où l'emploi est interdit officiellement. En réalité les gens travaillent souvent. Et ils travaillent effectivement comme main d'œuvre agricole, subalterne, pour des plantations, par exemple, dans certains pays d'Afrique de l'Ouest.
Oui, ils sont recrutés par la grande agriculture industrielle.
Voilà, c'est ça. On a eu le cas au Liberia, par exemple, où Firestone vient chercher dans les camps déplacés des camions, remplit ses camions de main d'œuvre, qui va faire travailler pendant 15 jours dans sa plantation de caoutchouc, et il ramène au bout de 15 jours pour en prendre d'autres. Donc c'est effectivement une réserve de main-d'œuvre de très bon marché qui n'a aucun pouvoir de négociation sur le coût de son travail et qui est évidemment dépendante de ces emplois-là.
Il y a même la situation de ces travailleurs qui sont dorénavant encampés. Il y a le cas du Qatar qui est cité, dans lequel au Qatar il y a plus de 80% de la population qui est étrangère et qui travaille et vit, enfin c'est une population largement majoritairement masculine, célibataire géographique, et qui vit dans des camps. On a la même situation dans certaines régions de France, avec des ouvriers agricoles qui viennent d'Amérique latine.
Oui, c'est-à-dire on peut être à la fois utile et indésirable. C'est-à-dire utile économiquement et indésirable socialement. Et c'est intéressant que, justement, la forme camp corresponde à cette stratégie, on va dire, d'utiliser économiquement pour une période donnée. En général, c'est toujours associé à des contrats de travail assez limités, quelques mois, 1 an ou 2 ans. Et le fait que les gens sont pratiquement interdits d'aller en ville, ils doivent passer leur temps entre le camp et le lieu de travail. Donc c'est le cas au Qatar, avec beaucoup d'entreprises de construction. C'est le cas très souvent dans des entreprises agro-industrielles, ce qu'on trouve aussi en Amérique latine, notamment au Brésil. Et puis le cas aussi au Brésil, en Amazonie, avec les très grands barrages hydroélectriques qui sont construits et où les gens sont effectivement dans des camps, dans des conditions très précaires. On a le cas quand même, notamment au Brésil, où des mouvements de protestation d'ouvriers de ces entreprises de construction de barrages hydroélectriques ont permis d'améliorer un peu les conditions de logement et les conditions de salaire aussi des gens qui travaillent dans ces entreprises. Mais en général, justement, ces espaces sont associés à des politiques d'exception, c'est-à-dire on traite ces personnes à part, on les garde à part, aussi parce que ce sont des contrats de travail pour une durée limitée, et donc les gens après sont évacués sans droit, sans intégration aucune dans le contexte urbain.
Extraterritorialité, exception, exclusion, Ce que vous dites, Michel Agier, c'est que ces camps qui rendent l'étranger invisible, qui construisent une figure de l'étranger bien plus affreuse, terrible que celle qu'on a pu connaître jusqu'à présent, ces camps-là sont intrinsèquement liés à la globalisation.
Je pense qu'effectivement, c'est une question qu'on doit se poser si on veut réfléchir à la possibilité de faire à l'échelle mondiale un mode de société qui fonctionne à l'échelle mondiale. C'est tenir compte du fait qu'effectivement, aujourd'hui, dans la gouvernance mondiale, comme on dit, telle qu'elle est pratiquée, il y a cette production de population en plus. Le sociologue Zygmunt Bauman avait beaucoup écrit là-dessus, sur Hannah Arendt déjà avant, sur la production des surnuméraires, comme on dit, les gens en plus. Et finalement, cette gouvernance mondiale qui repose sur les États-nations et en même temps sur, bien évidemment, la nécessité que des gens circulent, parce que économiquement, beaucoup d'entreprises ont besoin à ce que des gens circulent. On est en train de créer un espace dont cet espace du gouvernement humanitaire et du gouvernement des indésirables, des camps, est un des éléments, un espace de gens qui échappent aux droits citoyens, on va dire, parce que justement, ils sont un peu mis à la frontière des États-nations, et en même temps, ils n'ont pas de citoyenneté qui corresponde à leur position. Donc je pense qu'il faut commencer réellement à inventer une citoyenneté qui prenne en compte cette mobilité. Soit les États-nations sont capables d'inclure cet élément de la mobilité dans les citoyennetés nationales, soit il faut inventer autre chose que les citoyennetés nationales. On parle beaucoup aujourd'hui d'inventer une citoyenneté européenne, par exemple, pour beaucoup de gens qui sont en situation de mobilité, repenser d'une manière différente, beaucoup moins utopique et beaucoup plus réaliste, repenser la question d'une citoyenneté mondiale en termes très concrets.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez les indications pour trouver le livre de Michel Agier aux éditions de La Découverte et notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposée par Ruth Stegassi, préparation Laurence Genepin, revue de web Anne Gouzon, mixage Alain Joubert, réalisation Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.